Merci à tout le monde d'être venu ou revenu. Le thème d'aujourd'hui, c'est lois et normes. Plus généralement, les interactions entre incitations formelles du genre loi, prix, marché, contrat, et incitations informelles, sanctions, récompenses sociales, estime, honneur, et ainsi de suite. Comme les autres fois, je vais alterner entre un cadre conceptuel basé sur un modèle développé avec Jean Tirol, dont je montrerai des petits morceaux, on va dire, de façon non technique ou le moins technique possible, et des applications expérimentales ou empiriques, soit dans des laboratoires de sciences sociales d'université, faites typiquement avec des étudiants, soit, et là ça va être beaucoup plus intéressant, des expériences, on va dire, carrément gigantesques, en grandeur réelle, sur le terrain, dans différents pays. Alors, dans la plupart des situations, notre comportement réagit à un ensemble de motivations assez complexes. D'abord, il y a ce qu'on appelle les préférences, les désirs, les valeurs, les impulsions, etc. Il y a les incitations formelles, il y a une loi, il y a un règlement, il y a des prix. Et puis, il y a des incitations sociales ou informelles, des normes sociales. On est puni ou récompensé par l'estime des autres, par la réputation, par l'honneur ou par le stigma. Un exemple évident qui est dans les nouvelles ces derniers temps-ci, ce sont les problèmes d'harcèlement sexuel dans les entreprises ou ailleurs suite à l'affaire Weinstein. On voit bien là l'interaction entre les préférences de certains ou de certaines ou les pulsions à faire ceci ou cela. Les incitations formelles, il y a des règlements, il y a des lois qui vont sans doute aussi changer. Et puis les normes sociales, il y a ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et de façon intéressante, ce qui se fait aujourd'hui n'est pas ce qui se faisait avant et ce qui ne se fait pas aujourd'hui, de même. Mais cette interaction est beaucoup plus vaste. Or, si on regarde un peu ce que font les sciences sociales, il y a une espèce de spécialisation des rôles. On étudie plutôt soit les incitations, soit les normes. Au sein de l'économie, typiquement, l'accent est mis sur les contrats, les prix, les marchés, etc. Il y a aussi une littérature importante qui porte sur les normes sociales, mais jusqu'à récemment, elles étaient totalement séparées, elles ne se parlaient très peu. Si on regarde entre disciplines, la division est encore plus marquée. Les psychologues et les sociologues, je généralise, en général, ne croient pas trop aux incitations, aux prix, aux marchés. Ils sont assez sceptiques. On trouve souvent des idées comme il ne faut pas donner des incitations, en particulier monétaires, parce que ça va détruire la motivation intrinsèque ou altruiste qu'avaient les gens. Ça va corrompre les normes sociales et les valeurs de la société, etc. La première question à poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire exactement détruire la motivation intrinsèque, corrompre les normes sociales? Plus exactement, quels sont les mécanismes par lesquels ça pourrait arriver et est-ce que ça arrive dans la pratique ou plus exactement, quand est-ce que ça arrive ou quand est-ce que ça n'arrive pas. Dans ces disciplines, les outils de prédilection, plutôt que les prix et les incitations, les récompenses, c'est plutôt de convaincre les gens de faire ce qui est bien ou de ce que la norme doit changer. Si on part maintenant du côté de la loi, en fait, c'est quelque chose entre les deux. C'est en même temps un ensemble de prix, d'incitations. Vous faites ceci, le tarif est tant, et ainsi de suite. Mais en même temps, on trouve l'idée que la loi est un message, que la loi transmet ou signifie les valeurs de la société et qu'elle s'y adapte aussi quand ces dernières changent. Et que donc, c'est plus que simplement un menu avec des prix dessus. De façon générale, la loi et les normes interagissent, elles se modèlent l'une l'autre. Donc, pour comprendre un peu tout ça, il faut un modèle, il faut un cadre où les deux soient présents et on puisse étudier leurs interactions. Et c'est seulement là qu'on va pouvoir réfléchir à la fois théoriquement et puis empiriquement à la question de quand est-ce que donner des incitations monétaires ou matérielles, ça affaiblit ou ça renforce les normes. Et puis, ayant répondu ou ayant une meilleure idée de cette réponse, Comment faut-il fixer les taxes, les subsides, etc., quand on sait que les gens interagissent aussi au travers de normes. Donc, voilà un peu le plan. Donc, je vais présenter d'abord ce modèle ou ce cadre conceptuel général qui combine les incitations formelles et informelles, et je vais l'utiliser pour montrer comment il se peut se faire, effectivement, qu'on ait des phénomènes de ce qu'on appelle des effets d'éviction ou de « crowding out », que de donner de l'argent pour faire quelque chose, en particulier quelque chose de socialement bien, ça puisse décourager certaines personnes, voire même, dans des cas particuliers, décourager plus de personnes que ça n'incite à le faire. Après, on va aller regarder trois études, une en laboratoire et deux sur le terrain, pour voir qu'est-ce qui se passe dans la pratique. Ensuite, on va parler un peu plus des normes sociales et ce qui est relié à ce qu'il y avait avant, de dire quand est-ce qu'on doit s'attendre à ce que donner des incitations dans un contexte où il y a des normes sociales, ça ait des effets puissants ou des effets assez faibles. Et on va ensuite regarder une autre application empirique. Si j'ai le temps, enfin je pense avoir le temps, on reviendra au modèle pour dire, bon, ben maintenant, demandons-nous, sachant comment les normes réagissent ou les normes interagissent avec les incitations, comment il faut modifier, disons, les formules traditionnelles des économistes sur le taux de taxation optimale ou le taux de subside optimale en fonction de ça. Et enfin, si le temps le permet, je parlerai de cette idée du contenu expressif de la loi ou du contenu informationnel de la loi, et puis peut-être une expérience tend à valider ce que dit le modèle là-dessus. D'accord ? Donc, lançons-nous directement dans le modèle. Voilà, donc modèle avec Jean Tirole. Donc on veut capturer l'idée qu'on est chacun sujet à ce mélange de motivations qui sont plus ou moins fortes en fonction des circonstances. Donc on va représenter les agents, les gens, comme choisissant un niveau de participation à une activité. Typiquement, on va penser à ça comme une activité qui est bonne pour les autres, une activité prosociale. Et donc, ils vont choisir un niveau A, qui peut être faible ou être élevé, qui peut être 0 ou qui peut être 1. Et A, ça suggère altruisme. Donc, c'est combien on contribue, disons, au bien-être des autres, en ne polluant pas, en payant ses impôts, en ne trichant pas, etc. Bien sûr, c'est coûteux. Il faut donner son temps, il faut donner de l'effort, il faut éventuellement donner de l'argent si on donne à une charité. Donc, il y a un coût qui augmente avec le niveau de contribution. Pourquoi les gens le feront ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, on peut être récompensé pour ce genre de choses. Par exemple, pour enseigner aux enfants, qui est une activité prosociale, ben, les gens sont payés. Quand les gens polluent, ben, dans certains cas, ils sont taxés. Donc, il y a des incitations monétaires ou matérielles qui sont présentes. Et donc, on va appeler Y le nombre de dollars ou le nombre d'euros par unité de contribution. C'est ce qu'on appelle le taux d'incitation. Ensuite, les gens peuvent vouloir faire cette chose qui est bonne pour la société ou pour les autres de leur propre chef parce qu'ils aiment faire le bien ou au contraire, ils peuvent aimer faire des choses qui sont antisociales. Donc la première composante de la motivation, ça va refléter ce qui est écrit là, c'est-à-dire que en fonction de ma part, plus je participe ou plus je contribue, eh bien plus je serai récompensé s'il y a une récompense, et j'ai une certaine valeur pour la monnaie. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'argent, des gens qui en ont moins besoin ou qui y attachent moins d'importance. Et puis, indépendamment de cette récompense, il y a ce qu'on appelle la valeur intrinsèque ou la motivation intrinsèque, c'est-à-dire que j'ai envie de le faire parce que, justement, je suis altruiste, je suis généreux, ou au contraire, je n'ai pas tellement envie de le faire sur cette cause-là en particulier. L'environnement ne m'intéresse pas particulièrement. Donc là, on a des motivations intrinsèques, des motivations extrinsèques, évidemment le coût qu'il faut supporter. Un petit peu de notation pour ceux qui aiment ça, mais sinon on peut le sauter. Donc VA, c'est le degré d'altruisme de la personne, pour combien elle aime contribuer sans être récompensée. VY, c'est le degré de motivation par l'argent, combien cette personne aime l'argent ou a besoin d'argent, par exemple si elle est pauvre. Et tout ça est multiplié par le degré de contribution et on soustrait le coût des contributions. D'accord. Donc là, c'est purement un modèle individuel, et maintenant, on va en faire un modèle social où le regard des autres va intervenir. Le regard des autres intervient parce que, bien entendu, tout le monde n'a pas le même degré de motivation intrinsèque, honnêteté, etc. Tout le monde n'a pas le même degré de rapacité, disons. Et en général, on a plutôt, dans la plupart des cas, une préférence pour avoir comme amis, politiciens, patrons, etc., collègues, des gens qui ont un VA élevé que des gens qui ont un VA faible et des gens qui n'aiment pas trop l'argent plutôt que des gens qui ne pensent qu'à l'argent. Donc, il y a une hétérogénéité dans la population, en particulier au niveau de leur degré d'orientation prosociale et éventuellement aussi au niveau de leur degré de besoin ou de goût pour l'argent. Et par contre, on ne les connaît pas, il faut essayer d'observer ce que font les gens pour apprendre quel est leur type. D'accord ? Donc, c'est là que rentre l'image sociale ou l'estime sociale, voire même l'estime de soi, quand les gens se jugent eux-mêmes. En général, c'est avantageux d'être perçu comme quelqu'un d'honnête, de prosocial, etc., et désavantageux d'être perçu comme quelqu'un de malhonnête, d'antisocial, etc., voire même de se percevoir de cette façon-là. Petit exemple, une annonce de la Croix-Rouge pour inciter les gens à contribuer. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que si vous contribuez, par exemple en étant volontaire, vous allez aimer ça, même peut-être plus que ce que vous le pensez, et vous allez avoir une réponse terrifique, une réponse fantastique de la part de vos proches. Quand ils sauront que vous contribuez, vous aurez leur approbation, leur estime, etc. Et vous aurez même l'estime de vous-même. D'accord ? Donc, on va modéliser ces payoffs d'estime sociale ou d'estime de soi-même de la façon suivante. Aux motivations qu'on avait tout à l'heure, on va ajouter la suivante. Chaque personne bénéficie quand elle sera perçue comme étant prosociale. Plus elle est perçue comme prosociale, et ça dépend de ce qu'elle fait, plus elle est contente. Et puis ça, c'est le combien de valeur on attache à la réputation sociale. Il y a des gens qui attachent une grande valeur, des gens peu de valeur. Et de même, en fonction de mes actions, les gens vont juger mon degré de désir d'argent, ou d'amour d'argent, ou de besoin d'argent. Est-ce que je suis riche ou est-ce que je suis pauvre ? Et je peux aussi être concerné par le fait que les gens pensent que je suis avare ou désireux d'argent ou pas. Et donc, en général, c'est une mauvaise chose. Donc, il y a un moins ici. D'accord ? Donc, la différence de ces deux choses-là, c'est ce qu'on va appeler la réputation ou le payoff réputationnel. Donc là, ça, encore une fois, c'est la petite formule qui correspond à ça. Donc E, c'est pour espérance. Quel degré d'altruisme est-ce que les gens peuvent espérer de moi, étant donné combien j'ai contribué, étant donné combien éventuellement j'étais récompensé pour contribuer. Et puis ça, ce M, c'est pour image, c'est combien a d'importance pour moi l'image sociale de mon altruisme ou dans ce cas-là, l'image sociale de mon degré de besoin ou de désir d'argent. D'accord ? Donc, on a maintenant les trois motivations qui vont interagir. Les gens font quelque chose de bien, soit parce qu'ils sont bons, et plus ou moins bons, ils en font plus ou moins, soit parce qu'ils sont récompensés, et en fonction de leur désir ou de leur besoin d'argent, ils le font plus ou moins, soit parce qu'ils aiment être perçus ou se percevoir de façon positive plutôt que de façon négative, donc il y a une petite couronne de laurier là, ça c'est donc l'estime de soi ou l'estime des autres. D'accord ? Différentes personnes auront différentes composantes de motivation, et plus important, quand on va changer une des composantes de la motivation, eh bien, les autres vont souvent s'ajuster. D'accord ? Donc l'utilité totale ou les préférences globales de ces agences, c'est qu'ils vont choisir leur contribution ou leur degré d'effort, combien j'ai de les autres, combien je triche sur mes impôts, etc., en fonction des pénalités ou des incitations matérielles et de combien ils aiment ça, en fonction de la valeur intrinsèque de l'action ici et de combien ils y attachent d'importance, en fonction du coût, bien sûr, et en fonction des conséquences réputationnelles en termes de est-ce que les gens pensent que je suis une bonne personne ? Est-ce que les gens pensent que je suis une personne qui ne pense qu'à l'argent ? D'accord ? Donc ça, c'est la formule où tout est mis ensemble. Si on se passe maintenant du point de vue de la politique ou des gens qui veulent encourager ces contributions sociales, quels sont les outils? Le premier outil, c'est de fournir des incitations matérielles, payer les gens pour faire ce qu'on a envie de faire. L'autre, c'est d'amplifier la visibilité des actions, d'amplifier le stigma sur les mauvaises actions, d'amplifier l'honneur sur les bonnes actions. C'est aussi une autre possibilité. Alors, comment est-ce qu'on peut réfléchir à cet effet d'éviction, de crowding out, l'idée que, dans certains cas, encourager les gens, et tout à l'heure on y reviendra parce qu'on en a beaucoup parlé sur la question de faut-il payer les gens pour donner leur sang ou faut-il que le don de sang soit volontaire? On verra la réponse. Mais conceptuellement, en tout cas, comment peut-on penser à ce qui se passe quand, comment ça pourrait-il se faire que quand on paye les gens pour faire plus quelque chose, en fin de compte, ils le font moins en moyenne. Donc là, j'ai remis sur ce petit diagramme, imaginons la population, c'est un nuage de points, une image d'individu, chacun a un degré d'altruisme, chacun a un degré de désir ou de besoin d'argent. Quand il n'y a pas de et chacun, ici, c'est le comportement, c'est zéro. Hein. Soit on le fait, soit on le fait pas, soit on donne du sang, soit on donne pas du sang, et on le fait si le coût est inférieur à la somme des motivations, la motivation intrinsèque, la motivation intrinsèque, qui dépend évidemment de combien on est payé, et la motivation réputationnelle, qui va aussi dépendre de combien on est payé, in fine. Donc quand il n'y a pas de, quand il n'y a pas de récompense, ben, ce terme-là est nul, et les gens le font simplement s'ils sont suffisamment motivés, s'ils ont suffisamment d'altruisme, ils contribuent, s'ils n'ont pas assez d'altruisme, ils ne contribuent pas. D'accord ? Du coup, si je vois quelqu'un qui est altruiste, qui contribue, je sais qu'en fait, il est au moins aussi altruiste que ce seuil, et si je vois quelqu'un qui ne contribue pas, j'ai appris quelque chose sur eux, je sais qu'il est au plus à ce degré d'altruisme. Maintenant, supposons qu'on paye les gens, donc on va donner Y euros par unité de sang ou d'unité de pollution en moins, unité de recyclage, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va attirer les gens qui vont être motivés en partie par l'argent, pour lesquels initialement la motivation intrinsèque n'était pas suffisante. Donc ça va se passer comme ça. Donc on va avoir des nouveaux contributeurs. Notez que plus ces personnes a besoin ou aiment l'argent, plus elle a tendance à se joindre, on va dire. Et par contre, pour ceux pour qui l'argent n'est pas important, ben on n'en attire que très peu. D'accord ? Donc on attire un nouveau mix de gens, c'est-à-dire des gens qui sont motivés en partie par le désir intrinsèque, en partie par les récompenses intrinsèques, et c'est ce qu'on appelle les nouveaux contributeurs. L'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'évidemment, maintenant, la signification sociale ou la signification de « je donne ou je donne pas, je contribue ou je ne contribue pas » a changé. Ceux qui contribuent, ce sont maintenant tous ces gens-là, et cet ensemble-là contient en moyenne des gens qui sont moins prosociaux qu'initialement et des gens qui aiment plus l'argent en moyenne qu'avant. Donc, la réputation comme étant prosocial va se dégrader, la réputation comme étant aimant l'argent va aussi se dégrader. Donc cet effet-là, ce pay-off de réputation, va diminuer et du coup, ça va décourager les gens qui le faisaient aussi en partie à cause de la réputation. Donc la limite là ne bouge pas, ne reste pas où elle était. La réputation quand on est payé pour faire quelque chose de bien, est inférieure à la réputation qu'on a quand on n'est pas payé. Donc, in fine, on va attirer ce nombre de... Enfin, on va attribuer les contributeurs nouveaux dans cette région-là, et on va perdre ceux-là, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas très motivés par l'argent, pas super motivés intrinsèquement. À la marge, ils le faisaient pour la réputation. Ben, la réputation a diminué, ils ne le font plus. D'accord ? Donc, on paye les gens pour se comporter mieux, disons. On en gagne certains, on en perd d'autres. Voilà un effet d'éviction. Après, qu'est-ce que ça donne en moyenne ? Ben, ça dépend combien il y avait de gens dans cette région-là et combien il y avait de gens dans cette région-là. Ça dépend de la distribution de la population dans cet espace de préférence. Donc voilà un peu l'idée de comment, comme on dit dans certaines littératures, les récompenses ou les incitations polluent la signification de cet acte noble et généreux, etc. Et du coup, on va perdre certaines personnes, peut-être même plus qu'on en gagne, ça c'est une question empirique. Donc formellement, qu'est-ce que ça veut dire? Chaque personne va contribuer, là je retourne au cas où on peut contribuer non pas 0,1, mais un peu plus ou un peu moins. Chacun va contribuer jusqu'au point où le coût de contribuer un peu plus est juste égal au bénéfice de contribuer un peu plus. Le bénéfice de contribuer un peu plus, c'est que ben, j'aime ça, plus ou moins, selon que je suis bon ou pas bon. Il y a une récompense, j'aurai un peu plus de récompense, et puis ça va changer mon image. Donc ce qu'on voit là, c'est que conceptuellement, le problème d'un observateur maintenant, comment est-ce qu'on va juger les gens, c'est ce qu'on appelle un problème d'extraction de signal, ou ce que les psychologues appellent un problème d'attribution. Je vois ce que fait la personne, je vois combien de mal elle se donne, ou combien de temps elle passe à contribuer. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir pourquoi elle le fait, savoir en particulier si c'est une personne qui est généreuse, bonne, honnête, etc., ou au contraire, si elle répond soit à ses autres motivations. Donc il faut que j'arrive à extraire de ce que je vois, qui est ceci, le signal sur son altruisme. Et si ça, c'est le signal, ben ça, en quelque sorte, c'est du bruit, c'est ce qui ne m'intéresse pas ou ce qui m'intéresse moins. D'accord ? Donc, voilà, c'est ce que je dis. Donc, les psychologues ou les sociologues appellent ça le social meaning de l'action. Les psychologues appellent ça l'attribution. À quoi est-ce que j'attribue le comportement ? À la générosité, à l'avarice ou à la quête d'estime des autres. Et ce qu'on voit, ce qu'on avait vu sur le petit diagramme précédent, c'est que quand on augmente ceci, ben, on peut endommager cela. D'accord ? De même, ça j'en parlerai moins, quand on augmente la réputation, les incitations réputationnelles en donnant beaucoup de publicité à ce que font les gens, bah, ça a un effet direct qui est qu'ils vont se comporter mieux, mais ça a aussi un effet indirect qui est que les autres vont se demander est-ce qu'ils ne le font pas pour la publicité, est-ce qu'ils ne le font pas pour la réputation. C'est ce qu'on appelle dans la littérature de psychologie sociale des effets de surjustification ou des effets de surdétermination, c'est-à-dire que le comportement, ben, il est déterminé par beaucoup de choses et il n'est pas déterminé seulement par ce qui m'intéresse, il y a d'autres choses auxquelles je dois l'attribuer. D'accord ? Donc aussi bien les récompenses matérielles qui sont là ou les récompenses publicitaires ou d'estime, de visibilité, etc., vont avoir cet effet de surjustification. Comme je l'ai dit, si on verra des exemples, quand on rend plus visible, plus public les bons ou les mauvais comportements, ça a un effet direct, mais ça a aussi un effet indirect, qui est que les gens se disent ben, « c'est peut-être pour ça qu'ils le font, pas vraiment du fond de leur cœur ». Bien. Donc, récapitulons. Le coût est égalisé aux bénéfices. Les bénéfices, il y en a trois, ou trois sources. Et si j'augmente les incitations extrinsèques, en augmentant le taux auquel je récompense les gens, de 0 à quelque chose de positif, ou de quelque chose d'encore plus positif, la motivation réputationnelle, l'estime de soi, l'estime des autres, va diminuer. Donc il y a un trade-off entre ces deux. Ce que montre, donc c'est formalisé par un modèle, et ce modèle donne lieu à des prédictions qui sont représentées sur cette courbe. Donc, supposons que je veuille encourager ce comportement prosocial, polluer moins par exemple, ou payer ses impôts, etc. Donc, je vais donner des incitations, je peux en donner pas du tout ou je peux en donner plus, et puis je vais regarder le nombre de gens totaux qui contribuent, ou la contribution totale, c'est ça qui m'intéresse. Donc là, il y a deux résultats qui sont écrits ici, mais qui sont visibles sur ce graphique-là. Donc, si on part d'un cas où les gens, il n'y a pas de normes, il n'y a pas d'estime des autres, il n'y a pas d'estime de soi, il n'y a que mes coûts et mes bénéfices privés, eh bien, dans ce cas-là, on est dans le cas de l'économie classique. Plus je récompense les gens, plus ils vont contribuer. Alors évidemment, je ne vais pas forcément les récompenser énormément, ça peut me coûter très cher, mais les gens répondent de façon normale aux incitations. Deuxième chose que je peux faire, c'est maintenant quand les gens ont du désir d'estime, etc., c'est de rendre leurs actions plus visibles. Donc maintenant, ce terme-là va devenir important. Le premier résultat dit que plus l'action est visible, donc plus j'augmente ces effets d'image, plus les gens contribuent. Donc on voit que ces courbes se déplacent vers le haut au fur et à mesure que les actions deviennent plus visibles. Et il y a énormément d'évidence empirique là-dessus. Plus intéressant ou plus subtil, c'est l'effet des incitations. Au fur et à mesure que les gens deviennent plus motivés par l'image, l'estime des autres ou l'estime de soi, cet effet de pollution qu'ont les incitations monétaires se renforce. Donc on voit que cette courbe, en même temps qu'elle se déplace vers le haut, quand je rends les actions plus visibles, elle s'aplatit, et voire même elle se creuse, et à un moment, elle va avoir un creux. C'est-à-dire que dans cette région-là, plus je récompense les gens, moins j'ai de ce bon comportement que je cherchais à encourager. D'accord ? Donc ça, c'est l'effet d'éviction ou de crowding out qui est engendré par le modèle. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que quand les effets d'estime sociale, etc., sont suffisamment forts, les effets des incitations matérielles s'atténuent, voire même deviennent négatifs. Le cas où c'est négatif, c'est le cas le plus frappant, c'est le cas dont on a beaucoup parlé dans la littérature. Ce n'est pas le cas le plus courant, mais c'est intéressant de montrer que ça peut arriver. Le message principal, c'est que les effets des incitations s'atténuent parce qu'il y a ces inférences qui vont dans l'autre sens. D'accord ? Il y a aussi des cas où les incitations renforcent la norme, renforcent l'estime. On en verra des exemples tout à l'heure. Maintenant, est-ce qu'on peut tester ce modèle ? Les incitations, les prédictions principales, c'est que quand les gens... c'est pas exact. Quand les gens sont observés, ils vont contribuer davantage. Et que, par contre, quand ils sont récompensés, ben, ça va s'atténuer, voire même se renverser. D'accord ? Ou de façon équivalente, l'effet des incitations matérielles diminue ou se renverse au fur et à mesure que la visibilité augmente et que donc les questions de réputation augmentent. Premier test, un petit test en laboratoire fait à l'université du MIT sur la côte Est. Donc il s'agit de contributions pour des organisations caritatives. Donc on fait venir des sujets. Et leur tâche, c'est de presser le plus rapidement possible les touches Z et X sur un clavier pendant jusqu'à 5 minutes. Quel intérêt ? Aucun. Justement, on veut que la seule raison qu'ils aient de le faire, ça soit de gagner de l'argent, soit pour eux, soit pour une organisation caritative. Pas parce que c'est intéressant. Donc, on les récompense. Pour chaque paire qui a été pressée comme ça, donc c'est fatigant, c'est ennuyeux, etc., on donne de l'argent en leur nom, à une organisation caritative, par exemple la Croix-Rouge. Plus ils font ça, plus longtemps ils le font, plus ils contribuent. Voilà, donc il y a un effort et il y a une contribution. Alors, qu'est-ce qu'on va varier ? On va varier, premièrement, est-ce que c'est une action prosociale ou pas ? Est-ce que c'est bien de contribuer à cette organisation ou pas ? Donc, il y a deux organisations. Il y a la Croix-Rouge américaine, et là, c'est clairement prosocial. Et puis, sur la côte Est, il y a la National Rifle Association. Là, ce n'est pas tellement vu comme pro-social. C'est même vu peut-être un peu comme antisocial. Si on faisait ça en Alabama, ça serait peut-être différent. Mais en tout cas, là, il est clair que ici, en quelque sorte, on va vérifier que ça entraîne de l'estime de faire des efforts pour contribuer à la Croix-Rouge. Ça n'entraîne pas d'estime de faire des efforts pour contribuer à la National Rifle Association. Donc ça, on change la visibilité, est-ce que c'est une action prosociale ou pas. Ensuite, les incitations. Soit tout l'argent l'argent ne va qu'à l'organisation caritative, soit pour chaque dollar qu'on a gagné pour eux, on gagne un dollar pour soi-même. D'accord ? Donc on est récompensé d'avoir fait la bonne chose. On a gagné de l'argent pour eux, mais on s'est gagné de l'argent pour soi. Et enfin, on va changer la visibilité. Soit les gens font ça dans leur coin et personne ne sait ce qu'ils ont fait, pour qui ils ont contribué, est-ce qu'ils ont été payés ou pas, sauf l'expérimentateur. Soit à la fin de l'expérience, chacun doit se mettre debout et annoncer « J'ai été alloué à la Croix-Rouge américaine et j'ai gagné tant d'argent pour eux et éventuellement tant d'argent pour moi. » Alors, voilà le résultat principal. Donc, là, c'est le nombre en gros, c'est le degré de contribution, le nombre de fois que les touches ont été pressées. Donc, c'est l'argent qui va aller à l'organisation en fonction de ça. Donc ça, c'est la bonne organisation, c'est pro-social, c'est la Croix-Rouge. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que quand les décisions sont privées, c'est-à-dire les autres ne savent pas ce que je fais, eh bien, je contribue même si ce n'est pas payé, donc il y a un certain degré de prosocialité, de motivation intrinsèque, et si on me paye plus, je contribue plus. Effet standard. Maintenant, quand c'est public, le fait que ce que j'ai fait et que j'ai été payé, si j'ai été payé, on voit que le degré de publicité augmente les contributions, c'était la première prédiction, quand elles ne sont pas payées, mais par contre, quand elles sont payées, les diminuent. D'accord ? Donc, c'était exactement l'effet croisé prédit par le modèle. La publicité, en l'absence d'incitation, a des effets positifs, mais quand il y a des incitations, ces effets sont nuls, voire sont renversés. Ou inversement, les incitations, quand il n'y a pas de réputation en jeu, ont l'effet habituel. Quand il y a une réputation en jeu, ça peut aller dans l'autre sens. Tout ça, bien sûr, doit être basé sur le fait que c'est quelque chose d'estimable de contribuer à cette charité. Si c'est l'autre, c'est-à-dire la National Rifle Association, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que quand c'est public, les gens ne le font pas, ou très peu, et le fait d'être payé ne change rien. Quand c'est privé, ils le font très peu, mais si on les paye sans que les autres le sachent, ils le font davantage. D'accord ? Donc là, en gros, il n'y a pas d'effet de réputation qui vient polluer l'effet direct. Bien, donc ça, c'est une petite expérience, 160 sujets dans une université, etc. Voyons plus grand avec ce papier de Ashraf et Bandira qui nous emmène en Zambie, dans la capitale. Et ça va être les contributions, ça va être de faire quelque chose pour aider à réduire le taux de transmission du virus VIH, qui est un des plus élevés au monde dans ce pays, une personne sur six à peu près. D'accord ? Donc, qu'ont fait ces auteurs ? Coopérer avec une organisation locale qui essaye d'encourager les gens à utiliser des préservatifs pour réduire et plus généralement de limiter la transmission. Limiter la transmission et l'utilisation des préservatifs sont des choses qui sont perçues comme prosociales là-bas. Il y a des publicités, il y a des campagnes d'information, etc. Les gens savent que c'est la bonne chose à faire, mais le problème, c'est qu'ils ne le font pas assez, ils ou elles. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire là une vraie expérience sur le terrain. Okay. Les gens avec lesquels on va travailler, ça va être des coiffeurs et des barbiers, parce que ce sont des gens qui voient les clients souvent, qui leur parlent, c'est une audience captive, qui leur vendent d'autres produits, qui ont une relation. Donc, on va essayer d'inciter les coiffeurs et les barbiers à vendre à leurs clients des préservatifs. D'accord ? Donc, on divise la capitale en 200 voisinages. On va travailler avec 1200 coiffeurs ou barbiers. Donc là, c'est vraiment à grande échelle. Et on va les répartir en trois groupes de façon aléatoire. Soit des gens qui ne sont pas récompensés. Donc, on va appeler ça des volontaires. Ils sont récompensés par rien. S'ils le font, c'est parce qu'ils ont envie de le faire. Soit ils vont être payés peu. Ils auront 10% du prix des préservatifs qu'ils vendent, ils pourront le garder, ou 90%, là, ils sont rémunérés davantage, donc petite ou grande incitation financière. Et enfin, incitation d'estime sociale, ce qu'ils appellent le traitement, le star treatment. On donne au salon une espèce de thermomètre qu'ils peuvent mettre sur le mur, et chaque fois qu'ils vendent un paquet de préservatifs, ils ont droit à une étoile, et ils peuvent montrer combien ils ont été bons socialement en vendant beaucoup de préservatifs. D'accord ? Donc, trois conditions, pas de récompense, récompense financière petite ou grande, et récompense d'estime sociale, on va dire. D'accord ? Ok, le résultat principal est visible sur ce graphique-là. D'abord, on les recrute en leur disant « aidez-nous à combattre le sida et promouvez votre business ». Donc cette organisation s'appelle Society for Family Health, etc. Donc les gens reçoivent ces publicités, ils arrivent, ceux qui sont d'accord pour participer, on leur donne un training, et après on tire au hasard par eux, parmi tous ces coiffeurs et barbiers, ou coiffeuses et barbiers, ceux qui vont être récompensés, pas récompensés, vont avoir les étoiles, etc. Donc ça c'est la capitale, chacun de ces, cartes, de ces carrés c'est un voisinage, et dans ce voisinage il y a différents salons de coiffure, et ces salons de coiffure vont être alloués à l'un ou l'autre de ces traitements. Voilà le résultat principal. Donc ici le groupe de contrôle, si vous voulez, c'est ceux qui ne reçoivent rien pour vendre des paquets de préservatifs, donc en moyenne ils en vendent 6, je ne sais plus si c'est par mois, je crois. Leur donner 10%, une commission de 10%, ça ne change rien. Leur donner une commission de 90%, ça ne change rien non plus. Ils en vendent toujours 5 ou 6. Par contre, le thermomètre avec les étoiles, qui montre qu'on est un bon citoyen et qu'on se donne du mal sans être payé, là, ça fait plus que doubler le taux de participation, en tout cas le taux de réussite, c'est-à-dire le nombre de boîtes qu'ils ont distribuées. D'accord ? Donc là, c'est clairement un cas où les incitations financières ne sont pas efficaces. Ce n'est pas qu'elles diminuent l'offre, mais c'est qu'elles la laissent à peu près inchangée. Et ce qui marche bien, ce sont les incitations d'estime sociale. Comment ça se passe ? Comment est-ce qu'ils arrivent à vendre plus ? Ben, ils font plus d'efforts. Alors tout d'abord, on peut les suivre pendant toute une année pour voir si ce n'était pas juste parce que c'était nouveau, etc. Donc on les suit pendant une année, on voit que ceux qui ont le STAR treatment sont significativement au-dessus de la moyenne ou du groupe de contrôle, tandis que ceux qui ont les autres, 10% ou 90%, ne le sont pas. Donc ce sont des effets qui sont stables dans le temps, qui durent pendant au moins un an. Comment est-ce qu'ils ont fait pour vendre plus ? Ben, ils ont fourni plus d'efforts. Donc, on va mesurer leur effort de différentes façons. On va aller dans leur salon, on va regarder combien il y a d'affiches, combien il y a de présentoirs, etc., pour ces préservatifs, pour la prévention du sida. On va regarder s'ils tiennent un cahier, comme on leur a demandé, avec toutes leurs ventes. On va regarder s'ils ont l'air intéressés ou s'ils font attention quand on leur explique l'importance de la tâche. Et ce qu'on voit là, donc il n'y a pas besoin vraiment de regarder les chiffres, il faut juste regarder les étoiles. Là où il y a des étoiles, c'est là où c'est significatif statistiquement. Là où il n'y en a pas, c'est que ce n'est pas significatif. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a qu'une seule chose qui est significative, c'est comme on le savait déjà, c'est le STAR treatment, et qu'il marche parce que les gens font plus d'efforts. Ils mettent plus de posters, de présentoirs dans leur magasin, ils sont plus consciencieux, ils sont plus intéressés par la question, etc. Enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est que tout le monde, là on a regardé les effets moyens, mais ce qui est intéressant, c'est que tout le monde ne réagit pas de la même façon. Donc, ce qu'on fait à les expérimentatrices, enfin les chercheuses, là, c'est qu'elles ont aussi, pour certains ou certaines de ces participants, leur ont fait des tests d'altruisme. Donc, il y a un test d'altruisme standard qui s'appelle le jeu du dictateur. On vous donne, mettons, 10 euros ou 10 dollars, etc. Et on dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez les garder, ou vous pouvez en donner une partie à une organisation caritative, la charité, etc. Là, en l'occurrence, c'était une organisation qui s'occupait aussi du sida. Donc, vous êtes le dictateur, vous décidez, je le garde tout, je donne tout, ou entre les deux. Et plus les gens donnent, plus c'est une indication d'altruisme. Donc là, on voit... On peut voir ceux dont la donation était au-dessus de la médiane et ceux versus ceux qui étaient en dessous. On peut aussi leur poser des questions. On peut leur dire pourquoi est-ce que vous êtes coiffeur, quelle est votre motivation ? Est-ce qu'elle est intrinsèque ? Est-ce qu'elle est de gagner de l'argent, etc. Bon, ça, c'est ce qu'ils disent. Après, on peut dire est-ce qu'ils ont besoin d'argent ? Est-ce qu'ils sont plus pauvres que la moyenne ou pas ? Donc là, on a une mesure de leur statut socio-économique. Et les pauvres, ceux qui vont classifier comme pauvres ou à statut bas, c'est ceux qui ne parlent pas anglais et qui et n'ont pas d'éducation au-delà de l'école primaire ou quelque chose comme ça, ou très peu d'éducation. Et donc, ce qu'on voit, c'est que, encore une fois, si on regarde l'effet du traitement STAR, l'effet du thermomètre, on sait que ça a un effet, et ça a un effet, c'est ce que nous disent ces étoiles significatives, c'est que ça a le plus d'effet, c'est sur les gens qui sont intrinsèquement motivés, ceux qui donnent dans le jeu du dictateur, ceux qui disent qu'ils sont plus motivés, mais aussi les pauvres, sur les pauvres. Et quant aux incitations matérielles, eh bien, les petites incitations matérielles n'ont pas d'effet. Les incitations importantes, large financial reward, ont un effet seulement sur les pauvres. D'accord ? Donc, les types altruistes répondent seulement aux motivations d'estime. Les pauvres répondent aux motivations d'estime et aux motivations d'argent. Ils ont besoin d'argent. Et enfin, ce qu'on peut mesurer ici, c'est que le traitement de visibilité est plus efficace, a un effet plus grand, quand on est en concurrence avec beaucoup d'autres salons de coiffure dans son voisinage. Parce qu'évidemment, c'est un tournoi, c'est une concurrence. OK ? Donc voilà une très belle étude qui montre justement, dans ce cas-là, l'effet limité des incitations monétaires et l'effet plus puissant des incitations d'estime sociale. Okay. Maintenant, on va regarder un autre cas ayant à voir avec les donations de sang. Donc, j'ai appelé ça le prix du sang. Donc, l'Organisation mondiale de la santé interdit de payer les gens pour donner leur sang. Alors, elle n'a pas de pouvoir judiciaire, elle ne peut pas punir, mais dans la pratique, pratiquement toutes les organisations, les Croix-Rouges, etc., Croissant-Rouge et ainsi de suite, obéissent à ces règles et ne payent pas les gens pour donner leur sang. De même, pour ce qui est des dons d'organes, dans pratiquement tous les pays, sauf en Iran, il est interdit de vendre ces organes, où il n'y a pas de vente d'organes légale, que ce soit le foie, les reins, etc. Même quand les gens sont morts, tout doit être fait pro bono. Et ceci malgré des manques criants qui entraînant des milliers de morts par an de gens qui attendent un organe et puis l'organe ne vient pas et il ou elle meurt. Une étude par certains économistes a estimé que si aux États-Unis, si on payait entre 10 et 15 000 dollars pour les donateurs de reins en particulier, parce que chaque personne qui a deux reins peut donner un rein, on pourrait éliminer la liste d'attente. D'accord ? Donc là, en quelque sorte, un économiste traditionnel dirait ben, y a un marché qui manque, il y a beaucoup de demandes et il n'y a pas d'offres, le prix est arbitrairement fixé à zéro, il faut augmenter le prix, il faut récompenser les gens, parce que donner un rein, donner un foie, voire même donner du sang, c'est coûteux, c'est pénible, donc il faut faire ça. Mais dans la pratique, c'est interdit. De même pour la plupart des pays, les donations de sperme, la GPA, si on la légalise, ça ne sera pas payé, etc. Donc il y a cette espèce de tabou sur donner des récompenses pour toutes ces choses qui ont à voir avec le corps. Certaines sont très, très coûteuses, donner un rein, d'autres ne le sont pas, comme donner du sang. D'accord ? Dans la pratique, il y a un peu d'hypocrisie. Out of sight, out of mind. Par exemple, le plasma, qui est une des composantes du sang qu'on peut extraire séparément, sa vente est légale aux États-Unis, les gens le vendent, en particulier les gens le vendent. Elle est illégale au Canada, donc pays plus moral. Mais la plupart du plasma qui est utilisé au Canada est importé des États-Unis, acheté des États-Unis. Donc, il y a cette idée de visible ou pas visible. D'accord ? Pour certaines choses, comme les donatrices de humains, etc., on autorise certaines indemnités. Où est la limite entre indemnité et prix ? Et puis, il faut savoir que toute prohibition engendre un marché noir sur lequel il va y avoir des prix typiquement encore plus élevés. Revenons donc au sang. Pourquoi, d'où vient cette interdiction sur le fait de payer les gens pour donner leur sang ? Ben, ça remonte en grande partie à un livre qui a eu beaucoup d'influence d'un sociologue et anglais qui s'appelait Richard Titmus, qui a, dans les années 70, a en quelque sorte présenté l'acte d'accusation ou écrit un livre disant que ce serait une mauvaise idée pour toutes les raisons possibles. Ce serait mauvais pour l'efficacité, ça réduirait la qualité du sang, parce qu'il y a des tas de gens malades, portant des virus, etc., qui viendraient donner leur sang. Et à cette époque-là, c'était surtout l'hépatite qu'on redoutait, et on n'avait pas de test pour détecter l'hépatite dans le sang, et que même ça réduirait la quantité de sang, qu'on aurait encore moins de sang si on paierait les gens, pour la raison que j'ai modélisée tout à l'heure, c'est-à-dire que la plupart des gens font ça parce que c'est quelque chose de bien, parce que c'est quelque chose dont ils sont fiers, et qu'à partir du moment où c'est payé, que ça devient une transaction, il n'y a plus de raison d'être fier, et donc un nombre de gens importants ne le feront pas. Autre argument de Titmus, c'était mauvais pour l'équité, c'est quelque chose qu'on entend souvent, ce sont les pauvres qui vont vendre et ce sont les riches qui vont acheter, que ce soit le sang, les reins, etc. Et que c'était mauvais pour les normes sociales en général, que ça découragerait l'altruisme, que ça corromprait les valeurs morales de la société, dégraderait les dignités humaines, etc. Ce qu'on appelle en termes économiques des externalités, c'est-à-dire ça changerait les choses, même en dehors de ce marché pour le sang, ça aurait un effet sur le reste des comportements. Donc ça, c'était les arguments de Titmus. Qu'est-ce qu'il avait comme évidence empirique à l'époque? Il en avait très peu, des figures assez sélectives et partielles sur les donations de sang et les manques de sang aux États-Unis et en Angleterre. Mais bon, c'est tout ce qu'il y avait à l'époque. Donc c'est ça qu'il a utilisé, mais il a aussi utilisé de façon un petit peu sélective, on va dire. Mais cette idée de faire cet argument, même sans évidence, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. En particulier, vous avez peut-être entendu parler de ce livre qui a eu pas mal aussi de retentissement récemment, de Michael Sandel, un philosophe à Harvard, qui est aussi plein d'arguments d'autorité, sans vraiment beaucoup d'évidence, sur le fait que certains marchés seraient catastrophiques du point de vue de la moralité de la société. Ce qui est intéressant, c'est que depuis Titmus jusqu'à très récemment, personne n'a vraiment regardé empiriquement ce qui se passait quand on récompensait les gens pour donner le sang. Qu'est-ce qui se passait pour la quantité? Qu'est-ce qui se passait pour la qualité? Après les travaux théoriques du genre de ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, les gens commençaient à faire des expériences motivées par cette théorie, parce que maintenant on comprenait à peu près les mécanismes par lesquels ça pouvait se passer, et il y a des expériences qui ont suggéré effectivement que certaines personnes pouvaient être découragées de donner du sang par le fait que ça soit payé. Mais c'était donc c'est intéressant, on était content quand on a vu ça, si je puis dire, mais c'était des expériences assez petites, encore une fois, sur des étudiants dans l'université. On ne regardait pas vraiment si les gens donnaient du sang ou pas du sang, mais simplement s'ils s'inscrivaient sur des registres de donateurs, et quand on les payait, il y en avait qui s'inscrivaient moins, etc. Donc, là encore, ce qu'on veut faire, c'est partir du laboratoire, aller dans le vaste monde et voir ça en vrai. Donc là, une série d'études empiriques extrêmement ambitieuses par deux économistes italiens et un psychologue américain. On va regarder pour de vrai ce qui se passe quand on récompense les gens pour donner leur sang. Alors, on ne peut pas leur donner du cash, dans la plupart des cas, parce que c'est les organisations qui genre Croix-Rouge, ne seraient pas d'accord. Mais il y a différentes récompenses que les gens peuvent recevoir dans différents endroits. Des t-shirts, des tasses à café, des bons de réduction dans les magasins, ça va se passer aux États-Unis. Des bons d'achat comme sur Amazon, etc. Donc ça, c'est carrément du cash. C'est du cash qui ne dit pas son nom. Vous avez un certificat de 15 dollars que vous pouvez dépenser sur Amazon. C'est comme du cash, ou de 5 ou de 10. En Argentine, ils ont fait ça avec des coupons que vous pouviez échanger contre ce que vous voulez, enfin, avec lesquels vous pouviez payer 10 dollars ou 20 dollars dans un supermarché. En Italie, une autre expérience où les gens qui donnent du sang, l'employeur leur donne un jour de vacances payé. D'accord ? Et là encore, une récompense plutôt d'estime sociale. On va mentionner leur nom dans le journal local. D'accord ? Donc tout ça a été fait et tout ça peut donc être mesuré. Certaines de ces études, on a simplement regardé ce qui se faisait avant, par exemple... sur les t-shirts, les mugs, etc. Ça se faisait déjà avant. La Croix-Rouge ne donne pas d'argent, mais parfois elle donne des t-shirts, elle donne des petits cadeaux. Donc on va voir comment les donations varient avec la valeur du cadeau. Et puis, là, c'est vraiment là où l'expérience, c'est vraiment une expérience. On va faire une expérience sur le terrain, randomisée, comme tout à l'heure. On va donner aux gens 0, 5, 10 ou 15 dollars pour donner leur sang. Alors, on va commencer dans l'Ohio. Dans l'Ohio, avec des campagnes où on envoie des gens, des événements, où on envoie des gens aux gens des annonces en disant « venez donner votre sang », etc. Ça s'appelle des « blood drives ». Donc ça existait déjà. Voilà une petite carte de l'Ohio avec différents comtés. Et la Croix-Rouge locale donnait déjà certains cadeaux, petits cadeaux symboliques, on va dire, pour les gens qui donnent leur sang. Donc là, ce n'était pas une expérience randomisée, c'était simplement « on va regarder en fonction des cadeaux » ce que donnent les gens. Donc voilà le coût des incitations. Ça va d'une tasse à café qui vaut 1,74 $ à une veste genre windbreaker, etc., qui vaut 10 $. Et en fonction de ça, on regarde le nombre de gens qui donnent et le nombre d'unités qui ont été collectées. Parce que si quelqu'un n'est pas éligible, par exemple, on ne le laissera pas donner son sang. Et ce qu'on voit, c'est clairement qu'en fonction de la valeur du cadeau, les gens donnent plus. Okay, modérément plus, mais donnent plus. Donc ça, c'est le nombre de gens qui viennent pour donner en fonction de... Ils ont reçu une petite affiche leur disant « Vous recevrez une tasse » ou « Vous recevrez une veste », etc. Et ça, c'est le nombre d'unités de sang. C'est à peu près un demi-litre de sang, qui ont été reçues. Donc ça, ce sont des données corrélationnelles ou observationnelles. Ce qu'on veut, en fait, c'est une expérience vraiment au sens carrément scientifique ou médical. Donc c'est là qu'on va, toujours dans l'Ohio, en collaboration avec la Croix-Rouge américaine, on va envoyer à 100 000 personnes, encore une fois, des invitations, venez contribuer, votre sang, c'est important, etc. Et pour certaines, on va leur dire... vous serez récompensé par 5 $, 10 $ ou 15 $. Pour d'autres, on ne leur dira rien, mais une fois qu'ils sont sur place, on leur dira « Oh, en fait, vous allez pouvoir être récompensé », etc. D'accord ? Donc, c'est une échelle gigantesque. Il y a 27 événements dans lesquels les gens reçoivent ou une partie des gens savent qu'il y aura des récompenses. Il y en a 50 auxquels on dit qu'il y aura une récompense, et il y en a 50% auxquels on ne dit pas qu'il y aura une récompense, mais quand ils arrivent, il y a effectivement une récompense. En regardant les deux, on voit l'effet purement de est-ce qu'on peut attirer les gens en leur disant qu'il y aura une récompense ou pas. D'accord ? Après, il y a d'autres événements où on ne dit pas aux gens que dans certains autres comtés, dans certains autres, on ne dit à personne. Là, on disait à 50% des gens, là, on ne dit à personne. D'accord ? Et la raison pour laquelle on sépare ça, c'est que peut-être que ces gens qui ont reçu l'invitation disant « vous serez payé », ils parlent à leur voisin qui a reçu une invitation qui ne disait pas qu'on serait payé, et du coup, le voisin le sait. D'accord ? Tandis que là, si on envoie à personne dans le voisinage ou dans le comté, personne ne le sait. D'accord ? Donc, en comparant les taux de donation entre ici et ici, on peut mesurer ces effets de spillover, ces externalités, dans quelle mesure les gens apprennent par leurs voisins qu'il va y avoir des récompenses et dans quelle mesure ça les incite à venir. L'effet le plus important du point de vue politique et économique ou politique sociale, en quelque sorte, c'est de comparer le cas où les gens ont été informés à l'avance et le cas où personne n'a été informé à l'avance. Enfin, ce qu'on peut voir aussi, on peut se dire peut-être que ceux qui ont donné aujourd'hui parce que c'était récompensé donneront moins le mois prochain. Donc on va suivre les gens pendant plusieurs mois. On compare les gens, encore une fois, dans un certain nombre d'endroits qui ont reçu des récompenses et ils savaient qu'ils allaient recevoir des récompenses et deux autres qu'ils n'ont pas reçues. Et on va les suivre pendant plusieurs mois. Voilà à quoi ressemblent les invitations. Venez en telle date de décembre 2009. Je ne sais pas si c'est très lisible. voilà, special holiday hours, de telle heure à telle heure, venez donner votre sang, ou bien venez donner votre sang et choisissez $15 de bons d'achat de chez Target, c'est un grand magasin, Giant Eagle aussi, ou BP. Donc vous avez $15, ou des fois $10, des fois $5. Ce n'est pas de l'argent, mais c'est très proche de l'argent. D'accord ? Voilà, donc on envoie ça de façon aléatoire. Il y a des gens qui reçoivent quelque chose qui dit ben, il y aura pas, il y aura juste des rafraîchissements, et d'autres qui dira vous aurez $15. Alors, qu'est-ce qu'on observe ? Ça, c'est par invitation qu'on a envoyé. Ce qu'on voit déjà, c'est que le taux de réussite est assez bas. Donc, il faut en envoyer effectivement des dizaines ou des centaines de milliers pour récupérer une quantité de sang significative. Mais ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure que la valeur du cadeau augmente, eh bien, il y a plus de gens qui viennent pour donner leur sang. D'accord ? Ça, c'est ceux qui savaient à l'avance qu'ils recevraient 5, ou qu'ils recevraient 10, ou qu'ils recevraient 15. Quand les gens savent qu'ils recevront 15, ben, ils viennent plus, plus de deux fois plus que quand ils savent qu'ils recevront 5. Et ils viennent aussi plus que quand ils savent qu'ils ne recevront rien. Ça, c'est les gens qui ne savaient pas, ou auxquels on n'a pas dit directement qu'il y aurait des récompenses. Et ce qu'on voit, c'est que quand il y a une récompense de 15, ben, ils en entendent parler d'une façon ou d'une autre, par leurs voisins, par les autres personnes qui ont reçu l'autre invitation. Donc il y a cet effet de spillover. Les gens viennent plus quand il y a une récompense dont ils ont appris l'existence indirectement par leurs voisins. Voilà le taux de donation. Une fois que les gens sont sur place, ok. Alors, ce qui est important de dire, c'est que les gens sont payés pour venir. Ils ne sont pas payés pour donner, justement pour éviter, parce qu'on va leur demander, est-ce que vous avez été dans tel pays, est-ce que vous avez telle maladie, etc. On a envie qu'ils soient honnêtes. Si on les payait seulement quand on prend leur sang, ils auraient des incitations à être malhonnêtes. Donc là, on les paye quand ils viennent. D'accord ? Et puis, une fois qu'ils sont payés, ils peuvent donner ou ils peuvent s'en aller. Ils peuvent être opportunistes. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que le taux de donation... encore une fois, augmente, aussi bien pour les gens, surtout pour les gens qui savaient à l'avance qu'ils allaient avoir des récompenses, le taux de donation augmente, en gros, entre 12% et 15% en fonction des récompenses que les gens ont reçues. Analyse coût-bénéfice, qu'est-ce qu'on a in fine ? Donc, on va comparer le traitement $5, le traitement $10, le traitement $15. Alors, historiquement, quand il n'y avait pas de récompense, en moyenne à chacun de ces sites, il y avait 13 personnes ou 14 personnes qui venaient, et on avait on avait 15 personnes qui venaient et on collectait à peu près 13 unités de sang. D'accord ? Quand on offre des incitations, quand on offre $5, ça ne fait pas grande différence. Quand on offre $10, ben, il y a en moyenne 8 personnes de plus qui viennent ou 11 personnes de plus qui viennent et on ramasse plus d'unités de sang. D'accord ? Donc, on passe de 15, par exemple, à 28. Donc, ça double presque. Bien sûr, il faut payer ces gens. Il faut les payer plus quand on leur donne 15 que quand on leur donne 10. Donc, on peut calculer le coût de chaque unité supplémentaire qu'on a collectée en payant les gens. Okay ? Pas avec de l'argent, mais avec ses bons, etc. Donc, ici, le coût d'une unité en plus, c'est $34. Ici, le coût d'unité en plus, c'est $66. D'accord ? Parce qu'il faut, payer beaucoup de gens comme le taux de donation est assez faible. D'accord ? À quoi est-ce qu'on va comparer ces $66 ? Ben, il n'y a pas vraiment de prix du sang, pour les raisons que j'ai expliquées. Mais ce qu'on sait, c'est qu'un hôpital aux États-Unis tarifie à peu près $1000 le transfert d'une unité de sang. D'accord ? Donc là-dessus, il faut payer les médecins, il faut payer les infirmières, il faut payer l'hôpital, etc. Mais il faut aussi payer le sang. Donc on peut se dire qu'une unité de sang, ça a une valeur qui est bien supérieure à 66 dollars, peut-être de l'ordre de 1 à 5, voire de 1 à 10. Donc, du point de vue de l'analyse des coûts-bénéfices, on a des coûts, mais ils ne sont pas énormes au regard des bénéfices qu'on peut escompter. Autre expérience par ces mêmes auteurs, ça c'est en Argentine. 18 000 personnes reçoivent des invitations. Différentes, encore une fois, de façon aléatoire, une invitation qui dit « Venez donner du sang ». Venez donner du sang avec une petite information sur pourquoi c'est important. Ou on ajoute, vous aurez un t-shirt qui dit « J'ai donné mon sang ». Ou bien votre nom sera dans le journal, newspaper mention. Ou bien on va vous donner un bon d'achat pour le supermarché. Ici, c'est, je crois, de l'ordre, et là, ils vont de l'équivalent de 10 à 20 dollars US, d'accord ? Si on fait le taux de change. Qu'est-ce qu'on observe ? C'est très frappant. Le groupe de contrôle qui n'a rien, le groupe à qui on donne de l'information, etc. Les effets de participation, le taux de participation est très faible. Quand on arrive à 15 ou 20 dollars US, donc ça, ce sont des dollars argentins, eh bien là, on voit qu'on attire beaucoup plus de gens. Ça, c'est le turnout, c'est le nombre de gens qui viennent. Et en violet foncé, c'est le nombre d'unités. On récolte beaucoup plus d'unités de sang. D'accord ? Est-ce que ces unités sont moins bonnes que les autres ou pas ? Non. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent prendre la récompense et puis qui s'en vont sans donner, parce que rappelez-vous qu'on est payé juste pour venir. Le taux de rejet, le taux d'unité de sang qu'on jette parce qu'en fait elles étaient elles passent pas les tests, etc., en fait est le même, baisse même un petit peu, d'accord. Donc en résumé de cet ensemble d'études et d'autres que j'ai pas mentionné, ils ont essayé 19 types d'incitations, des t-shirts, de la publicité, des vouchers, etc. La plupart du temps, ça marche. Il n'y a pas de diminution de la quantité. Au contraire, la quantité augmente quand ça devient suffisamment significatif. Il n'y a pas de détérioration de la qualité, en tout cas aujourd'hui, à l'heure actuelle, où on sait faire des tests. Et plus on récompense, plus on obtient de sang. D'accord ? Il n'y a pas d'effet à long terme, c'est-à-dire que les gens ne sont pas moins aptes à revenir le mois d'après ou quelques mois après pour donner leur sang, et que les coûts sont assez faibles, 30 à 50 dollars pour ces petits cadeaux ou ces cartes de ou ces bons d'achat, 300 dollars pour un jour de vacances en Italie, c'est cher, mais encore une fois, si le prix d'une unité de sang c'est près de 1000 dollars, d'accord. Et puis, une autre étude qui est mentionnée là, c'est en Allemagne, où là, il se trouve qu'on donnait du cash. Donc, ils n'obéissaient pas aux règles de l'Organisation mondiale de la santé. Et puis, ils ont décidé de se mettre en conformité. Donc, ils ont dit, on ne donne plus de cash. Et du coup, leurs donations de sang ont baissé. Et les gens se sont, dans ce centre-là, et les gens se sont redirigés vers les centres où ils étaient toujours payés. D'accord ? Donc là, c'est un cas où potentiellement, on pourrait avoir ces effets d'éviction, de crowding out, etc. Mais en fin de compte, ça ne semble pas être le cas. Les incitations semblent bien marcher, aussi bien du point de vue de la qualité que de la quantité. D'accord ? Donc, la question se pose ensuite, peut-être que, et en fait, les gens commencent à y réfléchir, peut-être pour que d'autres types de donations, donations de moelle osseuse, donations d'autres choses, ça pourrait être envisageable. En tout cas, ce que ceci montre, c'est que il faut des données, quoi. On peut pas simplement parler dans l'abstrait. D'accord ? Ok. Donc, maintenant, je retourne un petit peu vers le modèle pour parler un peu plus de normes sociales, d'honneur et de stigmatisation. Avoir une prédiction ou quelques prédictions empiriques et qu'on va encore maintenant aller retester sur le terrain. Donc, on va réessayer cette manœuvre délicate. Pensons aux normes sociales. Ou qu'est-ce qui est socialement acceptable ou approuvé ou désapprouvé ? Dans une grande mesure, ça dépend de ce que font les autres. Ça se fait ou ça ne se fait pas. Et comme j'ai dit avant, ça change énormément ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas, ce qui est considéré comme répugnant ou pas répugnant, immoral ou pas immoral. On peut penser au divorce, on peut penser à l'avortement, au mariage interracial, à l'homosexualité, etc., au harcèlement sexuel dans l'autre sens, harcèlement sexuel dans l'autre sens, etc. Donc, dans une grande mesure, on sait que c'est déterminé par ce que font les autres. On a aussi des expériences qui montrent que quand j'apprends que les autres ont contribué plus ou ont fait plus d'efforts, ben moi aussi, je me comporte mieux. Donc, il y a des effets de conformité. Mais il n'y a pas que des effets de conformité. Il y a aussi des effets où on essaye de se distinguer, où les autres, ben, ne sont pas, leur comportement n'est pas terrible. On va essayer d'être celui ou celle qui a un comportement qui se démarque et qui, donc, du coup, aura l'honneur, l'estime, éventuellement des récompenses pour ça. Le héros, celui qui va donner ses organes, etc. Donc, je suis une de ces rares personnes qui font quelque chose de très bien pour les autres. Donc, on va essayer de démêler un peu cette interaction entre l'honneur de faire quelque chose de très bien et éventuellement de très rare, et le stigma de faire quelque chose de vraiment mauvais. Alors, revenons par simplicité au cas le plus simple où soit je fais cette action prosociale, soit je ne la fais pas, ou inversement, soit je fais une action antisociale, je pollue, soit je m'en abstiens. Donc c'est 0-1. Et on va supposer que les gens diffèrent simplement par leur degré de générosité ou d'orientation prosociale et pas tellement ou pas du tout par le degré d'orientation vers l'argent. D'accord ? On va fixer la récompense, ça peut être 0, ça peut être autre chose, et on va dire qui participe. C'était comme on a vu sur le premier diagramme, on a une distribution de gens, il y a les gens très généreux, les mères Teresa, etc., qui ont un degré d'altruisme très élevé, il y a les gens qui sont très égoïstes, qui ne pensent pas aux autres qui sont là, voire même qui sont antisociaux, il y a une certaine distribution, courbe en cloche typique. Et puis, étant donné un niveau d'incitation, ben, il va y avoir un cut-off. Les gens qui sont plus motivés que ça font ce qui est prosocial. Les gens qui sont moins motivés ne le font pas. D'accord ? De même, quand je vois, donc, si maintenant je me mets dans les chaussures d'un observateur, si je vois quelqu'un qui participe, qui donne son sang, qui vote, qui a une voiture qui pollue peu, etc., je sais que je ne sais pas exactement à quel degré ils sont altruistes ou motivé par le bien des autres, mais je sais que c'est au moins ce niveau-là. Et si quelqu'un ne le fait pas, ben c'est au plus ce niveau-là. Donc, je vais attribuer aux personnes qui participent l'honneur, c'est-à-dire la réputation qui correspond à la valeur moyenne des V dans cette section-là, et les gens qui ne font pas la bonne chose, ou qui font la chose antisociale, ben, je ne sais pas où ils sont ici, mais en moyenne, je vais calculer la moyenne sur ce segment-là, et c'est ça qu'on va appeler la stigmatisation. Okay ? Et quand je me pose la question de est-ce que je devrais faire ce qui est bien ou pas faire ce qui est bien, je me dis, bon, ben, y a un coût pour moi, il y a éventuellement une récompense, et puis si je le fais, j'aurai l'honneur, si je ne le fais pas, j'aurai le stigma, donc je gagnerai la différence entre les deux. C'est ça mon incitation d'estime sociale ou réputationnelle, à me comporter bien. D'accord ? Donc, je compare encore une fois le coût de cette action, donner du sang, voter, etc., à la somme des bénéfices, mon degré d'altruisme intrinsèque, alors je peux être très motivé ou je peux être pas motivé du tout, l'incitation, est-ce que je suis payé ou puni selon que je fais quelque chose de bien ou pas, ce qui va déplacer ce cut-off. Et puis, le fait que si j'agis bien, eh bien, j'aurai l'honneur plutôt que le stigma. Okay ? Donc ça, c'est l'incitation informelle, l'incitation sociale qui vient se rajouter et interagir avec l'incitation légale ou l'incitation financière qui peut éventuellement être là. Maintenant, on va poser la question suivante. Supposons, encore une fois, qu'on augmente l'incitation, qu'on paye les gens ou qu'on récompense les gens, ou si on pense à la loi, on punit plus sévèrement ceux qui... le harcèlement sexuel, la pollution, etc. Donc on donne une incitation à se comporter bien. Qu'est-ce qui va se passer ? Mis à part les cas un peu paradoxaux qu'on a regardés au début, où en fait on obtient un effet total qui va en sens inverse, en général, ben, on aura un peu plus de ou beaucoup plus de participation. Donc la limite va se déplacer par ici, d'accord ? Et donc on aura voilà. Donc on aura plus de gens qui se comportent bien, un peu plus, beaucoup plus, ça dépend. Et comme on l'a regardé, comme on l'a noté tout à l'heure, maintenant le fait d'avoir changé l'incitation matérielle change aussi la signification sociale ou l'attribution qu'on fait pour les gens qui font ou ne font pas cet acte. C'est-à-dire que ceux qui participent maintenant, ben, c'est plus seulement ceux qui sont au moins aussi altruistes que ça, c'est ceux qui sont au moins aussi altruistes que ça. Donc c'est un groupe un peu moins généreux, un peu moins estimable que le précédent. Donc l'estime diminue. Ceux qui ne le font pas, bien que maintenant ça soit puni de ne pas le faire ou que ça soit récompensé de le faire, ben c'est maintenant vraiment le fond du panier. Ce sont les gens qui sont vraiment mauvais, plus mauvais qu'avant, au moins aussi mauvais que ça, versus au moins aussi mauvais que ça. D'accord ? Donc, quand on augmente les incitations, qu'est-ce qui se passe ? L'honneur à se comporter bien diminue, mais la punition sociale ou le stigmate à se comporter mal augmente. Et comme ce qui compte, c'est la différence entre les deux, on ne sait pas très bien dans quel sens ça va aller. Si c'est surtout l'honneur qui diminue, eh ben, ce terme-là va diminuer, et donc les incitations ont un effet faible. Si c'est surtout le stigmate qui augmente, les incitations ont un effet fort. Dans quel cas est-ce qu'on est ? Eh ben, supposons par exemple que la limite, au lieu d'être ici au milieu, elle soit par là. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est par là ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'abstiennent et très peu de gens qui participent. Donc ça, c'est typiquement pour une action rare et coûteuse, donner un rein, donner son sang, être héroïque, etc. On va être de ce côté-là de la distribution. À l'inverse, pour un comportement où la plupart des gens se comportent bien, du genre ne pas battre sa femme et ses enfants, la limite va être ici. La plupart des gens vont contribuer ou participer et il y aura seulement peu de gens qui se comportent très mal et ils seront sujets à beaucoup de stigmas. L'implication de ça, c'est que selon le taux de participation, le taux de conformité à la norme initiale, selon que le bon comportement est rare ou est relativement courant, c'est l'honneur ou c'est la stigmatisation qui va, c'est l'honneur ou la stigmatisation qui va réagir le plus. Donc, ça je vais sauter. Donc, quelles sont les implications ? Première implication, c'est que quand c'est l'honneur qui domine dans la quête d'honneur ou la quête de reconnaissance qui domine du point de vue réputationnel, ce qui compte, c'est d'être identifié parmi les quelques personnes qui sont bonnes, qui font cette action, même si elle est très coûteuse. D'accord ? Et quand on augmente les incitations, ben, l'honneur diminue, c'est moins glorieux, comme tout à l'heure, donc les incitations on va avoir encore une fois un effet d'éviction. Donc le taux de participation va augmenter avec le taux d'incitation, mais éventuellement ça peut être assez faible. D'accord ? Quel type de comportement relève de ce cas-là ? Comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont les comportements pour lesquels la plupart des gens se comportent de façon médiocre, et il y a juste quelques saints ou quelques saintes qui font la chose exceptionnelle, qui sont des héros, qui donnent leurs organes, etc. Ce sont des comportements, des cas où il est très coûteux de faire l'action prosociale. À l'inverse, quand c'est assez peu coûteux de faire l'action prosociale, la plupart des gens vont se comporter bien, et ce qui va dominer dans les attributions, dans les inférences, c'est que les gens qui ne se comportent pas bien, eux, vont être identifiés comme vraiment le fond du panier. Donc c'est le stigmate qui va l'emporter. Et donc plus il y a de gens qui se comportent bien, plus le stigmate sera fort, et donc du coup ça va faire un effet boule de neige. Donc là, un effet de substitution ou un effet d'éviction. Là, on voit un effet au contraire où les incitations et la norme se renforcent mutuellement. Ça fait boule de neige. D'accord ? Donc ça, c'est quand les effets de stigmatisation sont dominants. On va avoir ce qu'on appelle du crowding in, donc un effet boule de neige. Plus j'incite les gens à bien se comporter, plus la stigmatisation de ceux qui ne se comportent pas bien va augmenter. Et donc plus ils vont avoir intérêt à se comporter bien. Et donc ça fait boule de neige. Ça fait ce qui relève de ce cas-là, c'est quand le comportement prosocial est relativement peu coûteux. où ce sont seulement certains, on va dire, pervers qui choisissent de faire la chose antisociale. D'accord. Et donc là, en fait, ce qui peut se passer à cause de cet effet boule de neige, c'est qu'on peut avoir deux équilibres ou deux normes sociales. Oublions ce trait qui est au milieu, mais voyons ce qui se passe sur le nombre de gens qui participent au fur et à mesure qu'on augmente l'incitation. Ben, si elle est trop faible, les gens ne participent pas. Si j'augmente l'incitation, les gens commencent à participer. Les gens ne participent toujours pas. Et puis, quand j'arrive à ce niveau-là, il y a un autre équilibre qui apparaît où tout le monde participe. Okay, donc là, c'est vraiment un phénomène de normes sociales au sens traditionnel. Si personne ne participe, il n'y a pas trop de stigmates à ne pas participer. Donc, je ne participe pas. Et à l'inverse, si tout le monde participe, je ne peux pas me permettre d'être la seule personne qui se comporte mal. Donc, je vais participer aussi. Donc, le taux de participation est égal à 1. Donc, il y a un intervalle de récompense ou de punition dans lequel une société ou un groupe peut être avoir la mauvaise norme ou la bonne norme. Okay. Alors, implication et puis ensuite test. Donc, ce qu'on a vu, c'est que les incitations matérielles vont être assez peu efficaces pour inciter les gens à se comporter bien quand se comporter bien, c'est quelque chose de coûteux et de rare. Et elles vont être au contraire beaucoup plus efficaces, avoir cet effet boule de neige, quand c'est quelque chose de relativement pas très difficile et surtout aussi de très visible. Okay. Petit exemple, et ensuite on va voir une vraie expérience sur le terrain. Petit exemple, c'est les sacs en plastique. Alors apparemment, ce n'est pas tout à fait la même chose en France et en Irlande. L'Irlande était le premier pays à faire payer les gens pour des taxes, pour des sacs en plastique dans les magasins. Donc, petit coup, petite incitation à avoir un sac en tissu. Et donc, cet article raconte qu'en quelques semaines, les sacs en plastique ont disparu et tout le monde avait des sacs en tissu, etc., dans sa voiture, au bureau, etc. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est vraiment parce que les gens ne voulaient pas payer 33 centimes? Pour certains, sans doute, mais selon ce reporter, en quelque sorte, c'est ce qui est passé, c'est cet effet boule de neige. C'est devenu inacceptable socialement de se balader avec un sac en plastique. C'était comme porter un manteau de fourrure ou ne pas nettoyer après son chien. Donc, on voit ici, en tout cas, une suggestion de cet effet boule de neige. Okay. Donc, implication positive, c'est ça qu'on va tester. L'effet des incitations matérielles doit être, donc de la loi, des punitions, des récompenses, doit être plus fort quand il y a déjà beaucoup de gens qui se comportent selon la norme et doit être faible quand il y a peu de gens qui se comportent selon la norme. Donc, maintenant, on va partir en Chine. Voilà, et on va parler un peu de ce qu'on appelle l'économie de l'identité. Voilà, donc l'identité sociale, l'identité individuelle, l'identité de groupe, l'identité culturelle, politique, religieuse, etc. Vaste sujet. Traditionnellement, encore un autre sujet auquel s'intéressaient surtout les sociologues et éventuellement les psychologues sociaux. Et assez peu les économistes, mais depuis, on va dire, la fin des années 90, les économistes ont commencé à s'y intéresser de façon assez massive. Donc il y a beaucoup de travaux là-dessus, des travaux théoriques, des travaux expérimentaux, des travaux empiriques. D'accord ? Donc là, je vais montrer un exemple de ces travaux sur l'identité. Là, ça va être en fait l'identité ethnique et ses rapports à l'économie et en particulier aux incitations. Donc, l'identité, c'est clairement quelque chose qui relève de la sphère sociale, des normes sociales, etc. Mais il y a aussi des incitations qui rentrent en jeu. Et on va poser la première question. Est-ce que l'identité, c'est quelque chose sur lequel les gens font des arbitrages, comme pour surtout, c'est-à-dire il y a des coûts et des bénéfices à s'identifier à tel groupe ou à tel autre, ou est-ce qu'au contraire, c'est comme on le dit parfois, quelque chose de sacré, qui n'a pas de prix, et ainsi de suite. Deuxième raison pour laquelle cette étude est intéressante, c'est que l'identité, en particulier l'identité ethnique, fait l'objet de politiques sociales importantes du type affirmative action. Alors on pense bien sûr aux États-Unis, où ça a été très important. Et ça existe aussi en Inde. Il y a des mesures qui favorisent, du point de vue de l'éducation et d'autres, qui favorisent les castes désavantagées. Et en Australie aussi, pour les aborigènes, les First People, au Canada. Donc ça existe dans énormément de pays du monde. Et ce sont des grands pays, États-Unis, Canada, Australie et Chine. On va voir ce qu'on fait pour les minorités ethniques. Donc la question ici, c'est quand on met en place ce genre de programme, qu'est-ce qui se passe ? Qui est-ce que ça affecte ? Et éventuellement, est-ce que les gens peuvent changer d'identité ou changer l'identité de leurs enfants, c'est ce qu'on va regarder, en fonction des avantages et des inconvénients. Alors, encore une fois, c'est un cas où les facteurs sociaux et les facteurs économiques interagissent, et donc c'est ça qu'on va regarder. Donc c'est un papier de deux économistes qui s'appelle donc « Ethnicité des enfants dans les mariages mixtes », théorie et évidence venue de Chine, et donc il utilise le modèle que j'ai évoqué pour regarder cette question. Donc, la Chine, il y a une majorité, une population qui est largement majoritaire, ce sont les Han, en 2010 c'était plus d'1,2 milliard, et il y a 55 minorités qui représentent 100 millions de personnes. D'accord ? D'une région à une autre, il y a beaucoup de variations dans ces minorités. Il y a des provinces où il y en a peu et des provinces où il y en a énormément. Il y a des problèmes politiques, culturels, etc., liés à certaines de ces minorités. Là, c'est clairement un exemple. Et depuis longtemps, il y a des politiques de affirmative action, je ne sais pas comment dire en français, d'action affirmative, qui essayent de remédier aux désavantages de certaines de ces minorités qui sont parfois discriminés par la majorité. D'accord ? Ces politiques sont au niveau du gouvernement national ou du gouvernement provincial et elles prennent les formes suivantes. Premièrement, les gens qui sont reconnus comme faisant partie d'une de ces minorités, et comme on va voir tout à l'heure, c'est sur leur carte d'identité, c'est sur tous les documents officiels, on l'est, on ne l'est pas, ont droit d'avoir des exceptions à la politique de l'enfant unique. La politique de l'enfant unique a été resserrée, rendue plus drastique en 1980. Donc cet avantage augmente après 1980. Donc on peut y penser comme si vous avez le choix entre être vous déclarer comme minorité ethnique ou pas, ben, il y a un avantage qui a augmenté après 1980. Il y a aussi des avantages pour les enfants qui sont classifiés comme minorité ethnique. Ils ont des points en plus aux examens très importants de l'examen nationaux qui font que tous les élèves qui veulent rentrer à l'université sont classés et en fonction de ça, ils peuvent aller dans différentes universités. Il y a quelques priorités sur certains emplois. D'accord ? Donc ça, c'est en quelque sorte les bénéfices matériels de choisir, en fait, de choisir pour son enfant une identité minoritaire quand on a le choix. Qui est-ce qui a le choix ? Ben, ceux qui ont le choix, ce sont les parents qui sont dans les couples mixtes. Si vous êtes Han-Han, il n'y a pas aucune façon dont votre enfant peut être minorité. Si vous êtes Han-minorité, là, on peut choisir l'ethnicité du père ou de la mère. Et là, ça devient information publique, donc estime, stigmate, etc., normes sociales, et aussi bénéfices qui sont attachés à l'une ou l'autre identité. Donc, les incitations économiques sont claires. Si vous avez le choix, ben, il y a des bénéfices qui sont attachés à déclarer votre enfant comme faisant partie d'une minorité. Il y a évidemment aussi des normes sociales. Et on va voir ce que c'est que la norme sociale assez rapidement. Les sources de cette étude, encore une étude assez gigantesque, on prend des données des recensements et on a plus de 25 millions de personnes dans cette étude. Donc on n'est plus du tout dans le cadre des petites études de laboratoire, etc. C'est la progression naturelle. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe si ces minorités choisissent pour leur enfant l'ethnicité majoritaire du père ou de la mère, donc les déclarent comme minorité ou comme Han. On observe les incitations qui varient de province à province, qui varient d'année en année, donc planning familial. Est-ce qu'en fait les couples mixtes ont plus d'enfants ou pas plus d'enfants, les différences de score, etc. D'accord ? Quelle est la norme sociale qui prévaut ? La norme sociale qui prévaut en Chine, c'est qu'on doit, entre guillemets, donner à l'enfant, surtout si c'est un garçon, l'identité ethnique du père. D'accord ? C'est ça qui est reconnu comme étant la chose honorable à faire. Et si on choisit de donner celle de la mère parce que la mère est une minorité, ben on aura ses bénéfices, mais on perdra de l'estime sociale. Donc ce qu'on va regarder, c'est pour les couples où le père est Han et la mère est une minorité, dans quelle mesure ils répondent à ces incitations. Pour les couples où le père est une minorité, il n'y a pas de problème. La norme sociale, c'est de donner la norme sociale et les bénéfices vont ensemble. Ici, il y a un arbitrage à faire. La prédiction du modèle, c'est la suivante. C'est que quand on augmente les bénéfices associés à se déclarer ou déclarer son enfant comme étant une minorité ethnique, plus de gens parmi les couples qui ont le choix vont le faire. Ce n'est pas très surprenant. Mais que cet effet sera plus fort là où la norme était déjà forte, c'est-à-dire là où il y avait déjà beaucoup de gens qui... là où la norme était forte, c'est-à-dire où la majorité des gens choisissaient l'ethnicité du père, et cet effet sera plus faible là où la norme était faible, c'est-à-dire dans les autres endroits. Inversement, donc, on devrait voir plus d'effets de ces réponses à ces incitations là où la fraction qui choisissait l'ethnicité de la mère était faible, c'est-à-dire là où la norme de choisir celle du père était forte. D'accord ? Donc ce qu'on peut faire, c'est comparer ce qui se passe dans certaines préfectures, qui sont des unités en dessous de la région, celles où il y avait 50% de gens ou moins qui suivaient la norme versus 50% de plus qui suivaient la norme initialement. On peut choisir aussi d'autres cut-offs. On peut faire aussi d'autres tests. Et autre prédiction, c'est que l'effet devrait être plus faible, encore une fois, pour les comportements qui sont plus rares, pour les comportements qui ont un coût plus élevé. Donc, si donner l'identité du fils, qui est la chose normative, a un coût plus élevé, on devrait avoir moins de réponses aux incitations. Qu'est-ce qui va faire que donner l'identité du fils ait un coût plus élevé ? Eh bien, par exemple, si c'est un fils... Si l'enfant est un fils, oui, exactement, ou si la mère fait partie d'une minorité religieuse et le père pas, ce qui va en quelque sorte accroître la distance culturelle entre le père et l'enfant. Okay. Alors, comment est-ce qu'on détermine la norme ? Oups. Vous ne pouvez peut-être pas le voir, mais donc ça, ils sont allés sur des forums où les gens discutent est-ce que je devrais donner une telle ou telle ethnicité à mon enfant ? Donc là, vous pouvez le dire, mais la question que pose quelqu'un, c'est si le père est Han et la mère est minorité, est-ce que l'enfant peut être minorité ? Et les réponses, c'est oui, c'est OK, j'ai un ami qui a choisi l'ethnicité de la mère. En général, vous devriez choisir l'ethnicité du père, voilà la norme. Mais c'est OK si vous choisissez celle de la mère. Les parents peuvent faire un choix, etc. Ici, une opinion plus forte. L'enfant doit avoir l'identité du père. Absolument. Ou alors, ici, vous pouvez suivre celle de la mère et il y a des bénéfices qui sont attachés à ça. Ça, c'est assez amusant. Je suis allé déclarer la naissance de mon enfant à la police. Je suis un Han et ma femme est une minorité. J'ai dit à mon fils à la police que je voulais que mon fils soit Han. C'est la bonne chose. Ils ont gentiment suggéré que je déclare mon enfant comme minorité en me disant qu'il y avait tous ces bénéfices attachés à ça. Mais j'ai insisté pour que ça soit un Han et j'espère que le futur de mon enfant dépendra de ses qualités et non pas de son ethnicité, etc. Donc on voit la norme et les incitations. Alors, je vais conclure là. Donc, quels sont les résultats de cette étude ? Ce qu'on voit, c'est que on regarde la part des enfants qui suivent l'ethnicité de la mère, d'accord ? Dans les couples dans les couples où, où la mère est minoritaire et le père est Han, et on voit effectivement qu'elle augmente après les années 90. Par contre, quand la mère est Han et le père minorité, comme j'ai dit, il est clair que l'enfant a tous les avantages à être minorité, donc là, ça reste presque zéro. Donc l'action, c'est vraiment quand le père est Han, et la norme dit que l'enfant devrait être Han, et quand la mère est minorité. Et ce qu'on voit, c'est que cette proportion qui choisit l'ethnicité de la mère augmente au cours du temps. je vais sauter ça. Voilà, c'est là qu'on le voit le mieux. Donc ici, on regarde... au moment où la réforme est faite, quelques années après la réforme ou quelques années avant la réforme, quelle est la propensité des couples Han minorité à choisir l'ethnicité de la mère pour laquelle ils auront certains avantages. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, quand la réforme entre en jeu, eh bien, on a une augmentation de la tendance à donner l'ethnicité de l'enfant, et que cette augmentation est plus forte là où initialement la fraction était plus faible. Donc c'est cet effet croisé, là où la fraction était moins de 50%, c'est là que ça augmente par rapport à là où la fraction était plus de 50%. Donc je vais sauter les résultats, c'est assez robuste, on peut regarder effectivement si l'enfant est un fils, on voit que l'effet diminue. Si la femme fait partie d'une minorité religieuse, aussi l'effet diminue, l'effet s'atténue. Donc les prédictions du modèle qui sont que les incitations devraient avoir un effet positif qui est plus fort là où la norme est forte, moins fort là où la norme est moins forte, qui est plus fort là où le coût de bien se comporter est faible, qui est plus faible là où le coût de bien se comporter est fort, sont satisfaites. D'accord ? Donc, en quelque sorte, c'est bien pour le modèle, mais c'est plus intéressant de façon générale parce qu'on a appris, d'une part, sur les effets des politiques d'affirmative action en Chine, ce qui est important. On a appris aussi sur les déterminants de l'identité, que l'identité, ça rentre dans ce cadre où les gens arbitrent entre incitation matérielle, incitation sociale, que les incitations sociales dépendent de ce que font les autres et que donc... bien qu'en quelque sorte on puisse dire tout dépend de tout, non, il y a quand même des prédictions précises qui ressortent de ça, et dans ce cas-là, elles sont vérifiées. D'accord ? Donc là, je crois que j'ai plus de temps, donc je vais aller directement à la conclusion. Que la loi et les normes s'influent l'une sur l'autre, on peut analyser ça de façon formalisée. On peut faire des tests. En général, ils marchent plus ou moins bien. Ils marchent plutôt bien, je voulais dire. Et que le progrès dans ce domaine-là, comme dans les autres domaines dont j'ai parlé avant, sur les croyances, s'opère par des allers-retours constants entre les leçons de la psychologie et de la sociologie, ou ce qu'elles suggèrent, des modèles plus formalisés par lesquels on représente ses effets potentiels, des tests sur des petits échantillons mais bien contrôlés dans des laboratoires, et puis des expériences sur le terrain où vraiment, en quelque sorte, on change la réalité, que ce soit des dons de sang ou de la prévention du sida ou les choix ethniques des parents pour leurs enfants. Voilà. Et je vous remercie de votre attention.